bonjour, bienvenue dans l'Étoile Polaire, l'émission d'astronomie amateur sur RDOA. Alors c'est le 52e épisode de l'Étoile Polaire, on est content de vous retrouver. Aujourd'hui, on est nombreux dans le studio. Déjà, il y a toute l'équipe cette fois, Fred, Axel, Rémi et Pierrick.
Salut.
Bonjour.
Bonjour à tous.
Et en plus, on accueille un invité, Luc.
Salut.
Qui va nous permettre d'inaugurer une nouvelle rubrique dans l'émission. Qui s'appelle Nouvel Œil. Et chaque fois, on essaiera d'inviter quelqu'un qui est astronome ou pas, mais en tout cas qui a envie de venir parler un peu de son rapport au ciel et de son expérience à lui avec nous dans l'émission. Donc on est ravis de t'accueillir. Merci.
Merci pour l'invitation. Hein.
Alors, le sommaire de cet épisode, avant ça, on rappelle quand même le podcast, hein, toujours. Sur le site de RDWA, rdwa.fr. Émission, puis émission thématique, puis l'étoile polaire avec un L apostrophe. Et là, vous pouvez retrouver toutes les émissions depuis le début, illustrées par l'équipe, hein, par Axel et Rémi, les spécialistes de l'astrophoto. Mmh. Voilà, donc ce soir, on va commencer avec, comme d'habitude, le ciel ce soir, justement, ce qu'on peut observer quand on lève les yeux une fois la nuit tombée. On parlera de quelques actus aussi du monde de l'astronomie. Ensuite, je ferai un petit point d'astro sur le pôle sud lunaire. Et en fait, c'est une thématique un peu sur le spatial lunaire à venir vraiment dans les 10 prochaines années. Et pourquoi tout le monde essaye d'atterrir dans cette région particulière de la Lune. Voilà. Après la pause musicale, ça va être Axel. Tu vas reprendre un peu ta thématique linguistique et astronomie.
Ouais, que j'avais attaqué dans la précédente émission. Et là, c'est le chapitre sur les noms d'étoiles arabes.
Ok. Voilà. Et on terminera avec donc la rubrique Nouvel Œil et Luc qui débute un peu en astronomie et qui va vous raconter un peu comment ça s'est passé pour lui.
Ouais, bah c'est ça. Hein.
Ça s'est bien passé déjà. Je veux rassurer tout le monde.
Ouais. Plutôt, ouais.
Déjà, bon. Il est là. Ouais. Ok, c'est parti. Alors, le ciel ce soir. En ce moment, si vous levez les yeux, moi je trouve qu'il y a quand même une belle. Bon, il y a toujours le triangle d'été hein, en début de nuit qui est là, plein zénith. Avec le cygne, l'aigle et la lyre, qui est toujours l'occasion d'observer différents objets au télescope, ou bien voilà, elle est venue de repérer ces constellations. On est dans la Voie lactée, il y a pas mal d'étoiles, c'est assez joli.
Ouais, la Voie lactée, elle est là tout de suite au début de nuit, c'est beau, ouais, bien au zénith.
Et puis on a toujours cette région circumpolaire autour de l'étoile polaire, avec la Grande Ourse et Cassiopée. Et puis. Entre les deux, il y a ce dragon quand même. Hein. Il est pas forcément facile à bien voir, serpenter, parce qu'il est assez long en réalité. Mais vraiment, il démarre entre la grande et la petite ours. C'est vraiment son point de démarrage. Il part comme ça en haut à gauche, on va dire, si on regarde. Et ensuite, il serpente. Et il y a quand même sa tête et ses yeux, les deux yeux du dragon qui sont assez reconnaissables. Alors ça, c'est aussi chouette de commencer à repérer les constellations en démarrant par cette région, parce que en fait c'est visible toute l'année. Donc toute l'année vous pouvez observer, et puis vous voyez qu'à 6 mois d'intervalle, la position de Cassiopée et de la Grande Ourse vont être inversées. Et c'est aussi une observation à faire si vous l'avez jamais faite. Et voilà. Ensuite, il y a quand même une autre belle région du ciel là qui s'ouvre à nous cette saison. Et bien, c'est Pégase, et puis tout ce qui s'ensuit. Hein. Donc derrière Pégase, plus à l'est, on a les Béliers, le Taureau, et puis on a aussi collé au carré de Pégase toujours Andromède et sa grande galaxie
qui commence à être bien haute. Intéressante à photographier pour les amateurs.
Voilà. Alors moi j'avais envie de partager des petites observations personnelles là que j'ai fait la semaine dernière. Une déjà aux jumelles. Où en fait moi j'ai une petite paire de 750. Donc ça pour le coup c'est vraiment des jumelles que vous pouvez trouver classique. Chez vous, qui sont assez classiques, pas du tout spécialisés dans l'astronomie. Et en fait, en regardant, je me suis rendu compte que la constellation de la Couronne, avait exactement la taille de mon champ de vision dans les jumelles. Ouais, ouais. Et en fait, ça m'a permis vraiment de visualiser de façon hyper concrète en fait, le champ que j'avais. Ouais. Et d'un coup, en fait, ça a donné une sorte d'autre dimension à l'observation.
Ça représente mieux ce que tu vois ailleurs après. Ouais. Quoi.
Et de mieux faire l'association du coup entre ce que je vois dans les jumelles et ce que je vois à l'œil nu. Ouais. Parce que je vois bien ce que je suis en train de regarder. Voilà, c'est un truc que j'avais jamais remarqué, alors que ça fait au faire 20 ans que j'ai ces jumelles. Et bon, voilà, c'est toujours rigolo de découvrir des petits trucs. Quoi.
En plus, la couronne boréale avec sa forme en demi-cercle,
c'est vraiment
ça devait faire la monture de lunettes.
Exactement.
Quoi,
ouais. Donc voilà, et puis aussi quand même Jupiter, hein, on peut parler un petit peu des planètes.
Oui.
En ce moment, il y a quand même Saturne et Jupiter qui sont bien observables. Autant Saturne en ce moment, elle est quand même un peu loin de nous, j'ai l'impression.
Elle s'éloigne, oui.
Ouais,
on a les positions il y a peu de temps. Mais par contre, Jupiter, c'est le.
Et Jupiter, c'est le feu. Voilà. Jupiter, là, vraiment, j'ai trouvé ça joli. Elle est quand même assez grosse.
Ouais, ouais, ouais.
Et puis c'est tôt dans la nuit,
ouais.
Contrairement à cet été, donc on peut l'observer facilement. Ouais.
Ça, c'est. Voilà, j'étais content de faire une jolie observation de Jupiter, là, l'autre soir.
Ouais, c'est vraiment le phare de la nuit en ce moment. Et celui du matin, c'est Vénus. Ouais, qui accompagne les lève-tôt.
Vers quelle heure elle passe, elle ?
Elle est un peu avant le soleil. Ça doit être en ce moment vers 6h30, 7h, là, qu'on peut l'observer. Et qu'est-ce que j'allais dire sur Jupiter ? Oui, si vous nous écoutez lors de la troisième diffusion de cette émission, on sera fin octobre et on sera très proche de l'opposition de Jupiter, le moment de l'année où elle est le plus proche de la Terre et donc où elle apparaît le plus gros, avec une image plus grosse. Dans un oculaire et plus brillante à l'œil nu.
C'est ça, et vraiment l'image est lumineuse. Quoi. Donc là, c'est vraiment des bonnes conditions, je trouve, pour l'observer. Alors, elle n'est pas super haute non plus dans le ciel, mais il faut attendre un peu qu'elle se lève. Mais déjà ça passe bien.
Ouais.
Ok, pour ce ciel ?
Je crois, oui.
Alors, on va passer à la suite et quelques actualités. Et en particulier, Rémi, tu voulais nous parler à nouveau de la comète. On l'avait mentionné un peu la semaine dernière. On avait expliqué un peu sa découverte par un astronome amateur japonais, ma mémoire est correcte.
Oui, c'est ça. Nishimura, Yedo Nishimura, qui l'a découverte le 13 août. Du coup, c'est une comète qui est allée très vite entre sa découverte et là, actuellement, on ne peut quasiment plus l'observer à nos latitudes. Un tout petit peu au coucher du soleil, mais elle s'est surtout fait apprécier en fin de nuit, quoi, avant le lever du soleil. Elle a été découverte dans les Gémeaux, du coup, il y a un gros mois. Quoi.
Ouais.
Et elle s'est déplacée très vite pour être actuellement dans la Vierge. Voilà, elle a eu sa périhélie, le moment où elle est le plus proche du soleil, le 17 septembre. Là. Et moi, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de photos de cette comète qui sont sorties, alors que c'était une comète de fin de nuit. C'est une comète qui n'était pas non plus majeure, comme on a pu en voir d'autres. Quoi. Mais voilà, il faut croire que les gens, fin d'été, avaient du temps là, pour faire des photos. Il y a eu plein de belles photos qui sont sorties à différentes focales, à différentes techniques. C'était une belle surprise. Il y a eu une belle motivation chez la communauté d'astrophotographes. Voilà, donc à suivre les prochaines comètes. On nous en prévoit une pour le printemps prochain, a priori. Voilà, celle-là était déjà bien appréciable.
Moi, j'ai pas réussi à l'observer, j'avoue.
De chez nous, c'était aux alentours de 5h, 5h30 du matin,
ouais.
avant les premières lumières du soleil, après elle se perdait dedans.
Proche de Vénus, d'ailleurs.
Ouais. Et avec un peu de chance, j'aurais pu ne pas être couché, mais non, j'étais écouché et pas levé. Et je ne l'ai pas vu, mais j'ai eu un témoignage de quelqu'un qui n'est pas du tout astronome, mais qui a repéré un truc brillant au matin dans le ciel. Et donc j'imagine qu'il y a eu quelques jours où on a pu bien la voir à l'œil nu. Ouais.
Après, il faut avoir aussi l'horizon assez dégagé vers l'est. Quoi,
oui, du coup.
C'est assez bas quoi, quand même. Moi, je sais que chez moi, ça passe pas.
Ah oui.
Ok.
Un autre point d'actu, Pierrick ? Non ?
Eh ben non.
Eh ben on va passer à la suite.
Yes.
Donc moi j'avais envie de vous parler cette semaine du pôle sud lunaire. Parce que on a déjà mentionné à plusieurs reprises là dans l'émission cet engouement qu'il y a actuellement. Enfin c'est plus qu'un engouement, c'est une entreprise spatiale, on va dire... international, donc qui est plus ou moins concerté, mais en tout cas, il y a que ce soit les États-Unis, enfin toutes les grandes nations spatiales sont dans ce programme et de retour sur la Lune, avec derrière la visée et d'aller sur Mars. Donc c'est pas de la science-fiction, c'est des projets qui sont actuellement en réalisation en fait. Voilà. Et donc en particulier avec le grand programme Artemis de retour des Américains sur la Lune. Voilà. Alors dans cette idée-là. Il y a aussi cette idée de gateway qu'on peut rementionner, qui serait quand même l'idée d'installer une station orbitale autour de la Lune, qui servirait de relais, en gros, entre la Station spatiale internationale et la Terre, et ensuite sur la Lune.
Qui servirait de remplaçante à l'ISS. L'ISS qui arrive un peu en fin de vie, en fin de contrat, qui a été prolongé plusieurs fois. Ils ne savent pas encore trop quoi en faire. Peut-être que ça va être vendu à des privés, que ça va être un hôtel. Ou... En tout cas, ils n'ont plus trop envie d'y bosser. Et ils se sont dit, c'est bête, il n'y aura plus de Station spatiale internationale. Ah, d'ailleurs, un petit point d'actu qui me revient. Il y a eu une fusée Soyouz qui a décollé de Baïkonour, en Russie, avec un cosmonaute russe et deux astronautes américains, malgré les tensions actuelles. Je trouve que c'est encore une démonstration que avec des gens réfléchis, on peut travailler ensemble.
C'est l'un des derniers endroits d'ailleurs où ils s'entendent, dans le spatial.
Mais bon, ils s'entendent quand même de moins en moins bien, et c'est ça aussi qui fait que l'ISS risque d'être abandonné dans la décennie à venir. Et pour la remplacer, il y avait cette idée.
Donc le gateway.
Il y aura sûrement des stations privées aussi. Qui vont se monter.
Oui, c'est possible.
Il y aura aussi sûrement du tourisme sur la Lune. Ouais. Enfin, clairement. Non, mais vraiment, c'est sans rigoler, en fait. Probablement, dès le début, c'est quelque chose qui va concurrencer les États, parce qu'en fait, maintenant, on en a parlé la semaine dernière, des compagnies comme SpaceX, elles ont des budgets qui sont comparables à ceux d'un budget spatial d'un État. Donc, à partir de là, en fait, ils font un peu ce qu'ils veulent. Et d'autant
donc gateway,
que le gateway, bon, c'était pas tant pour parler du gateway, c'était pour le mentionner, parce que c'est quand même un peu la pierre de voûte de cette prochaine étape. C'est clairement d'avoir une station orbitale autour de la lune, pardon.
Et ça, relais.
C'est peut-être, je sais pas, ils donnent des échelles à 10 ans, à voir. En tout cas, avant qu'il y ait cette station, il va y avoir déjà des choses au sol qui vont se passer. Et il y en a déjà, puisque là, il y a tous ces atterrisseurs lunaires qui ont été envoyés. On en a déjà parlé, donc avec les Indiens, il y a eu les Chinois, eux, c'était sur la face cachée.
Les Japonais.
Les Japonais, ils l'ont lancé.
Ah oui, ils l'ont lancé.
Mais elle arrive que dans 4 mois, parce qu'elle a pris une orbite pour économiser du carburant, etc.
Bon. Les Russes qui se sont écrasés.
Voilà.
Luna 25.
Donc en fait, et quand on regarde, on voit que tous ces gens ciblent le pôle sud, lunaire. Et du coup, moi j'avais envie de parler de ça parce que d'étudier un peu les raisons qui les poussent à faire ces choix. Et en fait, elles sont liées exclusivement à une notion d'énergie, en fait d'énergie disponible, de ressources disponibles. Et sur la Lune, il y a trois ressources qui sont accessibles pour les futurs occupants de la surface, ou en tout cas ceux qui y passeront, parce qu'il ne s'agit pas d'y rester tout le temps pour l'instant.
Oui, on ne fait pas une ville sur la Lune.
Non, ce n'est pas du tout le projet. Là.
Oui.
Mais c'est déjà le soleil, l'énergie du soleil, qui est là en abondance et on va dire inépuisable, à condition d'être éclairé par ce soleil. Donc la Lune, elle tourne sur elle-même, donc il y a le jour, il y a la nuit. Donc les températures changent, etc. Voilà. Ensuite, il y a l'eau.
Je crois qu'au pôle sud, justement.
C'est justement ce dont je vais parler. Ouais. Ensuite, là, je donne juste les trois ressources qu'ils ont. Ensuite, il y a effectivement cette histoire d'eau qui est sous forme de glace piégée dans le régolithe. Le régolithe, c'est la poussière de roches, de minéraux qui forment la surface de la Lune. Et voilà. Et ensuite, la troisième ressource, c'est le régolithe. Donc, pour chacune de ces ressources, ils ont trouvé des façons de les utiliser. Et donc, pourquoi ils vont au pôle sud ? C'est d'une part à cause du fait que c'est une zone où il y a de l'eau. Le régolithe, à cet endroit-là, contient de l'eau. Ça, c'est avéré.
De l'eau sous forme de glace.
Sous forme de glace. Alors, cette eau, on peut le dire, en fait, ils ont estimé. La réserve que ça pouvait faire, ce serait l'équivalent d'un lac qui ferait 10 km par 10 km par 10 mètres de profondeur. Ça, ce serait potentiellement l'ensemble de ce qu'il y aurait comme eau sur la Lune, à condition d'arriver à séparer cette espèce de glace là, du régolithe. Et ensuite, bon. Donc ça demande.
Sachant qu'on ne l'a jamais analysé, on ne sait pas.
Non, mais a priori, ça... on ne l'a jamais analysé. Si, il y a quand même des retours d'échantillons lunaires.
Avec la glace ?
Non, je crois pas avec la glace, mais
oui, pas de cette
chimiquement, c'est pas délirant d'imaginer de séparer l'eau du régolithe.
Okay.
Oui, ce serait pas le plus dur de tout ce qu'ils ont à faire. Je pense.
Non. Voilà, mais par contre, cette eau, elle n'est pas en suffisamment grande quantité pour, par exemple, imaginer, comme certains ont pu le faire, de faire l'hydrolyse de l'eau, c'est-à-dire la transformer en hydrogène et en oxygène, pour utiliser ça comme carburant. Pour faire... Là, ça, c'est clair que ce n'est pas possible, en fait. Il n'y a pas assez d'eau, quoi. Ouais. Mais en tout cas, il y en a un peu et il y en a au pôle sud. Le régolithe, j'en parlerai après. Et le choix du pôle sud aussi, c'est dû donc, à l'ensoleillement. Parce que le pôle sud est contenu dans une zone avec un grand cratère, donc assez profond. Donc en fait, il y a des crêtes tout autour. Donc si on imagine en fait l'alternance jour-nuit au niveau du pôle sud, si vous êtes sur une zone qui est en fait de crêtes, même quand vous passez dans la zone nuit, en fait, vous dépassez... Vous êtes plus haut que la courbure en fait, induite par l'astre. Et du coup, vous tapez quand même les rayons du soleil. Donc en fait, en installant des panneaux solaires sur les crêtes, ils ont accès 24 heures sur 24 en fait, à une source d'énergie. Donc, ce qui ne serait pas le cas, il faudrait qu'ils aillent au pôle nord aussi. Mais le pôle sud est plus intéressant pour eux, a priori.
Pour l'eau.
Pour l'eau, ouais.
J'ai une question peut-être un peu bizarre, mais le pôle sud de la Lune, il est où quand on l'observe? C'est celui du bas ou celui du haut?
C'est en bas, ouais, c'est comme nous, je crois.
C'est comme
oui.
nous, hein.
Ouais.
C'est celui du bas, du coup.
Ouais, je crois bien, ouais.
Oui, okay. C'est ça. Ouais.
Elle orbite autour du Soleil sur le même plan que la Terre ou...
Quelque chose près, oui, bah oui, sinon on n'aurait pas d'éclipse.
Bah, pas tout à fait. Elle oscille autour, mais quand elle passe, ouais, à peu près. Donc voilà, et donc deux ressources dont on a déjà parlé, le soleil, l'eau, le dernier c'est régolithe. Alors là, il y a quand même des trucs que j'ai trouvé assez intéressants.
Juste pour finir, c'est aussi au pôle sud au niveau des températures. Je crois que c'est plus clément.
Ils ont une température qui est plus tempérée.
Ça tombe moins bas et ça monte moins haut. Les variations sont moins fortes.
Ben oui, parce qu'en fait, ça c'est vraiment lié à cet effet de pôle en fait, où en fait il y a très peu de.
Voilà.
Il y a peu d'espace géographique entre la zone de jour et de nuit. C'est un peu pareil en fait. Et c'est petit puisqu'on est au pôle. Quoi. Donc oui, il y a cette idée là.
Et ça aide vachement. Enfin, ça aide un peu.
Donc c'est pour ces raisons là en fait, hein, tout simplement qu'ils décident. Tous là d'essayer d'atterrir sur cette zone. Et donc le régolithe là, ils ont des idées pour l'utiliser qui sont assez intéressantes. Ça va dans deux directions, mais le concept c'est de l'utiliser pour construire autre chose et sur place en fait, d'avoir les outils, d'amener sur place les outils pour le transformer et pour construire. Ben, donc en fait, ce régolithe il est très riche en silice qui peut être transformé en silicium. Et ben le silicium c'est un composant de base des panneaux solaires. Et donc, ils ont comme ça ce qu'ils appellent une Luna Box, ça s'appelle. Donc, ils ont déjà des prototypes, en fait, qui sont en train de tester dans des zones désertiques sur Terre pour, en fait, créer, à partir de ce qu'il y a dans le sol, soi-même un panneau solaire. Et donc, créer une source, quelque chose qui est capable de devenir une source d'énergie par lui-même, en fait. Donc ça, c'est un projet qui est en construction avec déjà des prototypes à l'étude. C'est quand même assez... Moi, je trouvais ça pas mal. Et ensuite, l'autre truc aussi, c'est de faire de l'imprimante 3D avec le régolithe, c'est-à-dire d'arriver à l'utiliser pour des processus à développer, mais en tout cas, se faire un petit matériau qui permette à une imprimante 3D ensuite de fabriquer des petites pièces. Mais bon, dont il faut, on est dans un contexte spatial, donc c'est-à-dire qu'il faut quand même maîtriser bien évidemment parfaitement ses dimensions, mais aussi un peu ses propriétés thermoélastiques. C'est super complexe quand même, mais ils sont là-dessus. Voilà.
Il y a aussi des projets avec la régolithe de remplir des sacs un peu et de faire des constructions en régolithe direct. Quoi.
Alors ce régolithe d'ailleurs, il s'en méfie beaucoup parce que c'est une source de pollution en fait.
C'est très fin.
C'est très fin et c'est
abrasif.
C'est abrasif, ouais. Donc en fait, ça abîme beaucoup les choses, donc ils font tout pour que ça ne rentre pas dans les espaces où les astronautes vont évoluer. Alors voilà pourquoi ce choix du pôle sud. Maintenant, je voulais parler d'un deuxième, c'est un peu une prolongation, mais c'est d'une une entreprise qui s'appelle Spartan Space, en fait. Et eux, ça fait partie justement un peu de ce spatial moderne dont avait déjà commencé à parler Pierrick, où en fait, les agences spatiales, que ce soit européennes ou américaines, sous-traitent à des privés une partie du programme. Et là, en l'occurrence, cette boîte-là, elle fabrique des habitats autonomes sur la Lune, en fait. Donc, des petites maisons champignons qui ont été étudiées pour être lancées avec les lanceurs actuels.
Ah oui, qui rentrent dans un lanceur.
Qui rentre dans le lanceur, c'est comme une petite boîte. Et c'est gonflable. Donc ça se met sur... C'est posé, donc ça, c'est descendu sur la Lune. Ça se gonfle. Et ça peut servir de refuge à des astronautes. Et en particulier, l'idée, ce sera de servir de refuge aux astronautes des missions Artemis.
La tiny lunaire.
Voilà. Et donc, et du coup, de pouvoir étendre un peu son relais d'exploration comme une base, comme un avant-poste, quoi, comme un camp avancé, et ensuite d'aller en installer une autre, etc. Et ce seraient des endroits qui serviraient aussi, qui auraient des panneaux solaires. Donc, où on pourrait, on pourrait se ravitailler en énergie, on pourrait recharger des choses, on pourrait peut-être réparer des trucs. Voilà. Bon, ils ont déjà envoyé en fait des prototypes sur l'ISS. Okay. Donc, ils sont déjà quand même avancés dans le truc. Ouais, c'est pas juste un projet
en
comme ça. Et donc, ça s'appelle Eurohab, l'habitat européen. Ils sont basés à Marseille. Et ils travaillent aussi avec le CEA, parce que dans leur truc, il y aurait des petites piles atomiques. C'est pas juste du... L'énergie ne viendrait pas uniquement de panneaux solaires, mais il y aurait une sorte de grosse batterie à combustible et qui mettrait de l'énergie à disposition pour les astronautes pendant quelques jours. Ils utilisent toute l'énergie qu'il y a, ensuite ils s'en vont et elle se recharge tout lentement et elle rentre dans un mode en fait auto-maintenance, mode veille, quoi. Le gars qui en parlait, il dit notre modèle économique est basé sur un service. Donc, en fait, il dit, nous, on est du Airbnb lunaire. Nous, ce qu'on offre, en fait, mais il ne dit pas qui sera ses clients, en fait. Ça peut être des astronautes, mais en réalité, ça peut être un touriste. Lui, il dit, voilà, nous, on a une cabane sur la Lune, on vous offre telle condition et ça coûte tant. Et voilà où on en est.
Ça coûte combien ?
J'en ai aucune idée. Et c'est aussi, il y a aussi un problème auquel vont être confrontés les astronautes quand ils vont devoir évoluer un peu plus longtemps sur la surface lunaire. C'est les radiations et les tempêtes solaires. Parce que sur la Lune, on peut dire qu'il n'y a pas d'atmosphère, elle est tellement ténue que ça compte pas. Et surtout, la Lune n'a pas de champ magnétique, donc il n'y a pas possibilité pour cet astre de piéger les radiations venues du Soleil. Et en fait, si vous n'êtes pas protégé de ça, concrètement, un humain, même avec son petit scaphandre, s'il est exposé à une éruption solaire, même à cette distance-là, en fait, il meurt.
Ah oui.
Donc, ils disent aussi, ils disaient que pour l'instant, ce ne serait pas une vraie protection, mais ça pourrait être une protection partielle aussi contre des éruptions.
On a la technologie pour ça, pour se protéger.
En fait, on l'aurait, mais le problème, c'est que du coup, qui dit se protéger de radiations nocives dit des grosses épaisseurs de la masse de matière, et qui dit de la masse de matière dans le spatial, dit complications.
Dit de l'argent.
Ouais. Voilà. Donc, voilà. Où ils en sont par rapport à tout ça et ce dont j'avais envie de vous parler cette semaine.
Et merci. Yes,
merci
Fred. Ben voilà, on va faire une petite pause musicale. Alors Luc, c'est toi qui as choisi le morceau cette semaine.
Ouais, avec un nom qui était dans le thème. Voilà, c'est un groupe que j'écoute en ce moment, avec un guitariste que j'aime beaucoup.
Et c'est Bad Asteroid.
Thank you.
et re-bienvenue dans l'Étoile Polaire. C'était Bad Astéroïde, un morceau de The Aristocrats, c'est ça Luc ?
C'est ça.
Yes. Et merci pour ce partage.
Ouais, merci, on va continuer le déroulé de ce 52e épisode. Donc là, Axel, tu vas continuer ce que tu avais démarré la dernière fois sur les liens un peu de linguistique et d'astronomie.
Oui, alors si vous l'avez raté, la dernière émission est en podcast sur le site de Radio Diwa, où j'évoquais tous les mots qu'on utilise dans le langage courant et sans le savoir, qui viennent de l'astronomie. Et puis un petit peu voilà, de dérivés. Et j'avais dit à la fin qu'il y avait beaucoup d'étoiles qui avaient des noms arabes, alors peut-être que je parlerai de ça. Et ben voilà, en fait, je vais enchaîner. Et continuer un peu dans cette thématique. Alors c'est un peu moins de la linguistique, puisque évidemment je parle beaucoup moins bien arabe que français. J'ai 2-3 notions, mais notamment par l'astronomie. Alors avant de voir vraiment des noms d'étoiles, je voulais replacer un peu le contexte, et d'ailleurs ça m'a appris quelque chose, puisque je pensais qu'il y avait des noms arabes d'étoiles, parce que les Arabes avaient une astronomie assez développée et qu'on avait mélangé, gardé ces noms-là. En fait, il y a énormément de noms qui sont traduits du grec et qui viennent de l'époque de...
Ils sont traduits en arabe, tu veux dire.
Voilà, traduits du grec ancien à l'arabe, et ensuite gardés en arabe et pour certains même traduits au latin. On va voir ça après. Et du coup, c'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup de concordances. On se dit, ah, c'est fou, les Grecs, ils ont vu un aigle là, et les Arabes aussi. En fait, non, c'est parce que parce qu'ils ont juste traduit. Alors, pour chaque étoile, j'aurai pas les informations, mais pour certaines, je pourrais vous dire si ça vient vraiment de l'arabe ancien ou du grec. Et tout ça, en fait, c'est parce que on a un astronome arabe très connu qui s'appelait Al-Soufi, qui est né dans les années 900. Après Jésus-Christ, et qui a traduit le fameux livre L'Almageste de Ptolémée, qui lui était né 800 ans avant, un petit peu 100 ans après Jésus-Christ, en Égypte, à l'époque de l'Égypte grecque, à l'époque des pharaons grecs, et de la bibliothèque d'Alexandrie, qui était grecque en Égypte, enfin, tout ce mélange de cette période de l'histoire. Et donc voilà, c'est ça qui a amené un peu les mélanges aussi des astronomies. Qu'est-ce que je voulais dire pour cette petite introduction ? Oui, c'est que sur les 3-4 000 étoiles qu'on peut voir maximum à l'œil nu, avec un très bon ciel sans lune, si on monte un peu dans nos montagnes, voilà, on pourrait voir 4 000 étoiles, et environ 200, un peu plus de 200 ont des noms arabes, et la plupart des plus brillantes en fait ont un nom arabe dans toutes les constellations. Alors voilà, j'en ai noté quelques-unes. Je finis avec cette page d'histoire avec Al-Soufi, cet astronome arabe perse en fait, l'actuel Iran, qui a traduit, donc qui est très connu pour sa traduction de l'Almageste, et qui est connu aussi pour avoir découvert entre guillemets le grand nuage de Magellan. En tout cas, c'est le premier qui a consigné ça. Il avait voyagé jusqu'au Yémen, il avait vu cette tache dans le ciel, il avait commencé à décrire, à faire des hypothèses sur ce que ça pouvait être, cette petite galaxie qui orbite autour de notre galaxie, le grand nuage de Magellan, visible dans l'hémisphère sud. C'est aussi les premiers écrits qu'on a, les plus anciens écrits qu'on ait sur M31, la galaxie d'Andromède. Alors évidemment, énormément d'humains l'ont observé avant lui, mais voilà, c'est les écrits les plus anciens, les observations, les détails. Il n'avait pas d'instrument, hein, je rappelle. C'était tout à l'œil nu, bien sûr. Et pour finir, comme tu parlais de la Lune, Fred, il a son petit cratère sur la Lune, le cratère Al-Soufi, parce que c'est pareil, il n'y a pas que les étoiles que les traductions se sont mal passées. Al-Soufi, Al-Soufi, il a plusieurs noms, mais le cratère Al-Soufi. Alors passons un peu aux étoiles. Je rappelle, le peu que je connais en arabe, c'est que le mot Al, c'est le comment on appelle ça, je ne connais rien en grammaire, en français.
Un préfixe.
Toi, tu sais. Non, c'est comme le, voilà, c'est comme déterminant. Comme le ou la, voilà, la okay. Chaise, le chien. Al, en arabe. Du coup, il y a énormément d'étoiles qui commencent par Al, sûrement là qui vous viennent en tête, Al-Biréo, Al-Déramin, des choses comme ça.
Al-Débaran.
Ouais. Alors, qu'est-ce qu'elles veulent dire un peu, toutes ces étoiles ? Al-Kor, tiens, allez, puisque tu cites celle-là. Celle-là, elle est un peu marrante, Al-Kor. C'est celle dans la Grande Ourse, il y a une étoile double visible avec une bonne vue, ou avec une correction adaptée. il faut que je mette mes lunettes pour voir les deux. La deuxième étoile de la queue de la Grande Ourse, La plus brillante, c'est Mizar. Et juste au-dessus, il y en a une toute petite, très peu brillante, c'est Alcor. Et Alcor, ça vient de l'arabe Al-Kowar, qui veut dire le faible. Et donc, voilà, je pense que ça décrit bien ce qu'on observe, l'étoile faible. Et là, je me suis demandé si le mot arabe, ce mot-là, Kowar, nous avait pas donné le mot français Kouar, la Kouardise, et, qui veut dire aussi un peu être faible. Ouais. J'ai pas cherché jusque-là, mais la question est lancée. Alors, dans les Halles, il y a Albireo. Alors, elle, Albireo, je l'ai mise en premier parce que c'est une des seules qui n'a pas un nom arabe, malgré les apparences. C'est dû à de mauvaises traductions. C'est passé du grec ancien à l'arabe, puis de l'arabe au latin, et puis du latin au c'est tout. Non, on a gardé ça au latin. Mais Albireo, à la base, c'était Ad-Jajaja, qui voulait dire la tête de la poule, parce que Ptolémée avait déjà dessiné le cygne, l'oiseau. Albireo, c'est la tête du cygne. Et donc la tête de la poule à la base, mal traduit, Albireo. Mais pour les autres, ça s'est mieux passé, vous allez voir. Vous m'avez parlé d'Aldébaran, je crois que je l'avais cité dans l'émission dernière, mais c'est pas grave, je le redis. Aldébaran, ça veut dire le suiveur. Ah c'est oui. Sous-entendu le suiveur des Pléiades. Les Pléiades se lèvent et Aldébaran arrive derrière, le suiveur des Pléiades. Il y a énormément d'étoiles aussi comme ça qui ont des noms par rapport à d'autres à côté, à des constellations à côté. Sur Pégase, par exemple, je ne les ai pas toutes notées, mais il y en a aucune d'ailleurs, je crois. Mais sur Pégase, il y a beaucoup de la selle du cheval, le bras du cheval, la jambe du cheval, des choses comme ça.
Et Altaïr ?
Altaïr, bonne question, je l'ai. Altaïr, ça vient de Al-Nasr Altaïr, qui veut dire l'aigle en vol. D'ailleurs, petite référence pour les geeks, le premier Assassin's Creed, le héros s'appelle Altaïr, et il y a toute une symbolique avec l'aigle, les assassins, et l'aigle et tout ça. Altaïr. Dans la constellation de l'aigle, est-ce que j'avais pas noté un autre truc sur Altaïr? Si, je le dirai après, non, je le dis maintenant, il y a un Deneb Okab qui est la queue de l'aigle. Je préciserai après pourquoi. Il y en a d'autres qui vous viennent comme ça, des Al. Non?
Almage.
Almac. Je ne l'ai pas noté celle-là, merci Rémi. Il y a Alnitak, ah oui, celle de la ceinture d'Orion. Il voyait aussi un chasseur dans Orion. On peut parler par constellation. Tiens, prenons Orion. Il y a cette fameuse ceinture avec Alnilam, Alnitak et Mintaka. Alnilam, ça veut dire le rang de perles, tout simplement, voilà, très visuel aussi. Et Alnitak et Mintaka, c'est des synonymes qui veulent dire la ceinture. Et puis on a l'étoile très brillante de Orion, Bételgeuse. En fait, le chasseur, celui que nous on appelle Orion, le chasseur Orion, eux l'appelaient le chasseur Al-Jawza. Et le bras, c'est Yad. Et du coup, le bras de Al-Jawza, ça donnait un truc comme Yad Al-Jawza. Et c'est devenu, par les moines au Moyen-Âge, ils ont traduit ça en Bételgeuse, Yad Al-Jawza, Bételgeuse. Et puis un peu après, en Bételgeuse qu'on connaît aujourd'hui. Yad, c'est la main de Al-Jawza, le chasseur. Et ça, par exemple, c'est une étoile qu'ils avaient nommée comme ça avant les Grecs. Et donc il y avait déjà cette idée de chasseur ici. Alors après, il y a des hypothèses, et même plus des suppositions assez fortes, de liens qui viendraient d'avant, que ça se sépare grec et arabe et perse et tout ça, de l'époque sumérienne, babylonienne, où ils voyaient déjà un aigle avec Altaïr, et donc c'est pas étonnant que les deux parlent d'aigle ensuite. Même sans parler de traduction, voilà, il y avait déjà un lien dans le passé qui a pu se faire, une source de base. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Il y a Algol, que j'aime bien, c'est l'ogre, une étoile variable, c'est dans la constellation de Persée, d'Andromède, dans ce coin-là. Algol, une étoile variable, si on l'observe de semaine en semaine, de jour en jour, on verra qu'elle brille plus ou moins fort. Et ça n'a pas dû les rassurer, c'est devenu l'ogre, la goule, Algol. Il y en a une, tiens, la première de la grande ourse, la première de la queue. Celle-là, je n'ai pas besoin de vous la traduire, c'est un mot qu'on utilise en français, Al-Kaïd. C'est le chef qui trône au début de la grande ourse. Allez, encore deux, trois. Alors oui, il y en a beaucoup qui viennent de l'anatomie, des mots d'anatomie arabe, comme je disais, les bras, les jambes, des choses comme ça, l'œil. Par exemple, il y a beaucoup de Deneb, puisque Deneb, c'est la queue. Alors, on a la plus connue, c'est Deneb, sous-entendu Deneb de la poule. Est-ce que je l'ai? Oui, c'est Danabadjajaja, la queue de la poule, la queue du cygne aujourd'hui. Et puis, on a Deneb Okab, que j'ai cité, la queue de l'aigle, Deneb Kaitos, La queue de la baleine, Deneb Ola dans le lion, Deneb Dulfim dans le dauphin, Deneb Algedi dans le capricorne. On a voilà, des mots comme ça qui reviennent. Dans le Sagittaire aussi, on a trois étoiles qui s'appellent Kaus, parce que Al-Kaus, c'est l'arc en arabe, et le Sagittaire étant un archer. On a Kaus Australis, Kaus Median et Kaus Borealis, trois étoiles qui font un petit arc, comme ça, de haut en bas. Voilà un petit peu pour ces noms. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre? Tu parlais de tes observations aux jumelles, Fred, de la couronne boréale. Al-Feka, ça vient de l'arabe. Al-Faka, qui veut dire l'anneau brisé. Ça fait un demi-anneau, cette couronne boréale. J'aime bien cette vision d'anneau cassé. Mm-hmm. Avec la couronne australe qui est de l'autre côté, il est tombé, tu vois, l'autre partie.
Mm. En plus, il a aussi cet anneau, la particularité d'avoir son étoile la plus brillante, vraiment la perle, là, qui est au centre du demi-cercle.
Elle a plein de noms,
d'ailleurs. Ça rajoute au côté un peu joyeux du
truc. Oui, pendentif un peu. Mm. Ouais. Elle a plein de noms, je crois, cette étoile. La perle, Margarita, la gemme, Gemma, Al-Faka. Et puis, il y a une dernière, puisque tu parlais du serpent. Dans les yeux du serpent.
Du dragon, je parle.
Du dragon, je confonds toujours, parce qu'il serpente. Mm. Et parce qu'en arabe, justement, c'est El Tanin, et c'est le grand serpent, ça veut dire El Tanin. L'œil du dragon actuel, qui serpente entre les deux ours. Voilà un petit peu ce que j'ai trouvé sur ces noms d'étoiles arabes qu'on a gardés jusqu'à nos jours.
Ça fait quand même un gros panel. Enfin,
je vous en ai donné une vingtaine et je vous dis, il y en a 200 visibles à l'œil nu.
Une grosse influence.
Ouais.
Antares, c'est arabe, ça
Non, ça, c'est grec. Antares, c'est grec. Ça vient de Anti-Arès, parce qu'elle est rouge, comme Mars. Mars, qu'ils appelaient Arès. Et pour la distinguer, voilà, c'était la non-Mars, Anti-Arès.
C'est amusant, ces histoires de traduction, les mots qui sont passés d'une langue à l'autre, qui se sont déformés progressivement.
Oui.
Il y a toute une partie de la pensée, je pense à de la philosophie, par exemple des textes d'Aristote ou de savants de l'époque qui sont passés par le monde arabo-musulman, enfin géographiquement, qui ont été des textes qui avaient que là, et qui sont réapparus plus au nord de l'Europe bien plus tard, quoi, 8e, 10e siècle.
Et oui, c'est ça, là, je disais, l'Almagest, c'est en 100 après Jésus-Christ, et traduit par Al-Soufi en 900, et diffusé à partir de là, en gros, quoi, dans nos contrées.
Et Al-Soufi, il était où? Il était en
Arabie? Il était en actuel Arabie, Iran,
oui. Iran, en Perse, à l'époque.
Déjà, l'Almagest, c'était... Alors ça, c'est le nom... même sur le nom de ce bouquin, il y a eu des tractations. Ça, c'est le nom latin. Avant, ça s'appelait... je ne sais plus comment en grec, mais ça voulait dire la grande contemplation, je crois, un truc comme ça. Et puis ça a été traduit autrement. Mais ce bouquin, je ne sais pas si on peut dire ce mot à cette époque, mais de Ptolémée, il a eu une influence en Occident, en Orient, pendant 600 ans, comme Aristote a pu l'avoir dans d'autres domaines, un petit peu moins l'astronomie que la philo ou la physique.
Même s'il s'intéressait à l'astronomie aussi.
Ouais, c'était un peu contemporain, non, Aristote,
c'est cette époque-là 300...
C'est avant.
350 avant Jésus-Christ. Ah,
Très bien.
Et merci Axel.
Je vous en prie.
On va terminer l'émission avec donc notre nouvelle rubrique là, dont on vous parlait tout à l'heure, Nouvel Œil, où on vous invite, vous les auditeurs de l'Étoile Polaire, à venir nous rejoindre dans le studio pour participer à l'émission avec nous et discuter un peu de ce qui vous fait plaisir. Là aujourd'hui donc on reçoit Luc, que vous avez déjà pu entendre dans cette émission. Déjà intervenu plusieurs fois, voilà. Et Luc, en fait, l'idée, c'est qu'il a démarré l'astro il n'y a pas très longtemps.
Bah, c'est ça, disons, les observations avec des instruments autres que des jumelles, comme ça, de temps en temps. Et, même si, bon, c'est difficile de ne pas voir le ciel d'été, même à l'œil, quoi.
Donc c'est clair que ça reste la base. Avant de passer au télescope, il y a quand même déjà l'idée de passer du temps à regarder le ciel à l'œil nu.
Certaines fascinations.
De reconnaître les constellations. J'imagine, par exemple, comment tu as appris les constellations?
Eh ben, alors je les connaissais très peu, très mal. Je connaissais le W de Cassiopée, la Grande Ourse, un peu comme tout le monde. La ceinture d'Orion, je crois qu'on me l'a déjà montré, mais pas plus que ça. Ouais. Non, les constellations, c'est plus là cet été, du coup j'ai un peu plus mis le pied dedans. Déjà il y a quelques années j'étais allé à Valdrome, là donc pas loin, j'avais eu l'occasion de découvrir un petit peu avec avec des Dobson, avec des instruments qui permettaient de vraiment focaliser sur les planètes. Ça m'a fait halluciner parce que les visions sont juste somptueuses, quoi. Mm-hmm. C'est toujours un truc qui m'a intrigué, moi, le ciel, les étoiles. Du coup, ça m'a mis un peu le pied dedans. Et après, bah, grâce à Axel, du coup, maintenant on est voisins en plus, donc j'utilise le télescope régulièrement. Mais Axel m'a bien branché là-dessus. Et cet été, j'ai participé à 2-3 de ses animations. Du coup, j'ai entendu un petit peu parler du ciel. Ça a remis le feu aux poudres un peu. Fait un tour à l'observatoire avec lui.
Ok.
C'était quoi ta question déjà ?
La question c'était comment t'avais appris les constellations, mais tu réponds à ça. En gros, l'idée de toute façon, c'est de, voilà, savoir un peu ce qui t'a mis le pied à l'étrier, comment ça s'est passé pour toi le moment, le moment où je fais pas d'astro mais ça m'intéresse, et le moment où maintenant j'en fais, quoi.
Ouais, les constellations là, c'est vraiment Axel en l'occurrence. Moi, c'était pas un truc qui m'intéressait plus que ça. Je sais qu'il y a une origine astrologique. Alors j'ai un peu étudié l'astro. Par le biais de la différence entre les sciences, les pseudosciences, mais plus d'un côté philo. Mais du coup, les constellations en elles-mêmes, ouais, c'était pas le truc qui m'attirait principalement. Mais en fait, j'ai appris à les apprécier parce que ça permet d'avoir des bons repères visuels dans le ciel. Et ça, vu que j'utilise pas beaucoup de télescopes, moi j'ai pas de matériel, c'est du coup beaucoup avec elles que je me repère dans le ciel d'été pour l'instant, principalement, quoi.
Tu as participé cet été à une animation avec moi où je t'ai mis un télescope dans les pattes.
Oui.
Tu t'es débrouillé à pointer des trucs avec. Et après, tu voulais le réutiliser. Tu t'es dit, je sais pas, tu avais des objets peut-être que tu avais envie de revoir ou plutôt envie d'en découvrir des nouveaux.
En fait, je sais pas, c'est même des objets que j'ai déjà vus. Moi, je sais que j'ai beaucoup de fascination pour les planètes, vraiment. Ça me donne une autre perspective un peu sur la voûte céleste. En fait, je me rends compte que ces objets-là, on arrive à distinguer vraiment un disque qui sont très proches de nous, quoi. Mmh. Tandis que la plupart des étoiles, en fait, quand on les pointe avec un télescope, ça reste vraiment ponctuel et on distingue pas d'objets. Vraiment, on distingue la lumière, on a la lumière, mais c'est tout, quoi. Donc les planètes me fascinent beaucoup.
Ça donne du détail et ça permet de voir ce qu'on observe un peu. Du coup, on a une vision claire de ce qu'il y a, quoi.
Et du coup, les objets, peut-être des nouveaux, un de ces quatre, des objets plus profonds. Toi, j'ai l'impression que tu observes plutôt ça avec ton télescope. Mmh. Et c'est vrai que du coup, je pense que je vais y venir aussi à un moment. Des choses magnifiques à voir. Après, c'est plus subtil. C'est vrai que j'ai du mal encore à m'adapter au fait de regarder dans un oculaire. Je trouve pas ça évident du tout.
Ah oui.
Ouais. Ce qui fait que les objets plus diffus, j'ai plus de mal à les apprécier pour l'instant.
Donc on peut décrire un peu. Donc t'es tombé, j'imagine, sur le catalogue des objets Messier.
J'ai entendu parler du catalogue des objets Messier.
Donc en fait, de toute façon, c'est ça, les objets les plus brillants du ciel. Donc tu commences. On parlait de la galaxie d'Andromède, M13 par exemple, grand amas d'Hercule, non? C'est quelque chose que t'as observé déjà.
Ouais. Double amas de Persée aussi.
Double amas de Persée. Ouais.
Des choses comme ça. Ouais.
La nébuleuse de la Lyre, c'est.
Je sais pas, ça
elle est pas, elle est pas si, si facile à trouver.
C'est quoi, c'est une supernova, c'est ça?
C'est un peu moins. C'est une nébuleuse planétaire, ouais.
Ouais, une étoile en fin de vie, mais pas assez grosse pour exploser en supernova.
Donc elle explose, mais d'une façon régulière. Elle crée une enveloppe très régulière et ça crée du coup l'illusion en projection d'un disque, petit disque planétaire, mais c'est du gaz.
Elle est magnifique, celle-là, ouais. Du coup, on l'a observée un peu cet été.
Mmh. Ok, donc t'as fait un peu ce parcours. Donc, si j'ai bien compris, t'as appris les bases du ciel au cours de soirées astro, en fait. Quelqu'un t'a montré. C'est ça un peu ma question, parce que pour moi, je trouve que c'est un peu le pied, c'est ça qui est un peu des fois délicat, c'est de faire ce passage quand on est seul, d'apprendre les constellations. C'est pas super facile de les repérer quand on n'y connaît rien et qu'on est tout seul. C'est pour ça que je te posais cette question. Donc toi, en fait, quelqu'un te les a montrés, c'est ça?
Ouais, complètement. Avec un laser.
Ce qui reste quand même. C'est précis.
Ouais, très, très pratique. Mais après, typiquement, il y en a, une fois que tu les as, tu parlais, je sais plus comment ça s'appelle, tu as le collier, le diadème.
La couronne.
La couronne, comment tu appelles le nom complet?
Couronne boréale.
La couronne boréale.
Okay, celle-là, par exemple, je ne la connaissais pas du tout, mais une fois que tu l'as,
tu ne
peux plus la rater.
Ouais, c'est sûr.
C'est magnifique. Pareil, après, du coup, le H de Hercule est bien visible aussi. Du coup, la lyre aussi. Enfin, du coup, ça s'imbrique un peu.
Ça s'enchaîne bien, surtout en partant comme ça de la Grande Ourse et en prolongeant un peu cet arrondi là de la queue de la Grande Ourse. Ben, on arrive d'abord sur Arcturus, cette espèce de cerf-volant, là, le bouvier.
Qu'on ne voit plus en ce moment, si Arcturus.
Au coucher du soleil.
Si,
très tôt alors.
Assez tôt. Bon, plus bas, la Vierge, là, on est vraiment, de toute façon, dans les choux, en ce moment, c'est couché. Mais en remontant, justement, on tombe directement sur la couronne et Hercule. Quoi. Avec Ophiuchus, le serpentaire autour, on ouvre un peu sur toute cette zone. Et c'est vrai que ça s'enchaîne assez bien. Et le triangle d'été qui colle à tout ça. Ouais.
Si vous êtes allé à la soirée astro de Marignac, on vous a montré tout ça. Et là, vous pouvez retourner voir et vous aurez peut-être des repères.
Donc, c'est vrai que les soirées astro, ça sert aussi à ça. Mais quelque part, bon, c'est sûr que si quelqu'un vient une fois par an, ce n'est pas avec ça que ça va suffire. En fait, il faut l'observer, moi, je trouve, un certain nombre de fois pour que vraiment ça rentre et se repérer. Et ensuite, il y a l'autre enjeu qui est de voir le ciel tourner au cours de l'année. Et de se repérer aussi sur l'année, sur les différentes saisons. Ouais. Voilà, c'est quand même toute une sorte d'apprentissage et de temps, forcément, que ça passe par du temps passé à regarder les constellations et comment elles tournent, celles qui sont couchées.
Ce n'est pas très contraignant au final.
Quand on aime ça.
Tu t'allonges là et tu regardes le ciel. Allez, tu as 3 heures.
Oh non.
C'est vrai que c'était quoi, il y a 2-3 ans là, que j'étais venu pour la première fois à Valdrome, où il y a vraiment un ciel magnifique, c'était une soirée géniale quoi. Et on a dû me les dire, les constellations, à ce moment-là. Et entre-temps, bon, bah, voilà, je ne les ai pas réutilisées. Du coup, je ne m'en rappelais plus. Et là, cet été, ouais, j'ai fait 3-4 soirées astro, plus avec une soirée à l'observatoire là, dans le sud de la Drôme avec Axel aussi. Là, du coup, elles sont rentrées. Ouais. Mais effectivement, il a fallu plusieurs fois et passer un certain nombre de nuits à être un peu concentré sur ce que je voyais quoi, là-haut.
Et puis c'est bien de passer du temps avec les cartes aussi.
Ouais.
Sur les cartes.
Ben ça, c'est ce que j'allais dire, parce qu'une fois qu'on a repéré ces constellations, ensuite on va chercher les objets qu'on va observer. Et là, donc, ça veut dire passer au télescope, donc c'est le pas que tu as franchi aussi, même si tu n'en as pas encore un à toi, c'est ce que tu as dit, mais voilà, l'observer au télescope, et ben, tu te sers de cartes du ciel, mais beaucoup plus précises, ce n'est pas juste les cartes des constellations, des atlas en fait, du ciel. Et on doit repérer l'objet, trouver une étoile bien brillante qui est à peu près dans le champ pour pouvoir la pointer au télescope. Et ensuite aux chercheurs, reconnaître le chemin d'étoiles qui est sur l'atlas pour atteindre l'objet désiré, quoi, qui est plus ou moins faible et donc plus ou moins difficile à pointer.
Ouais, mais ça, c'est.
C'est un peu ça le jeu de l'astronome.
Ouais, mais
versus Gotou.
Non, mais même, je veux dire, maintenant qu'on sait, des fois, il y en a plein, on sait où c'est.
Il y en a plein, oui, ça dépend.
Suivre, après, c'est pas compliqué, une fois qu'on en a quelques-uns
en tête.
Une
fois que tu as le chemin d'étoiles quelque part en tête ou dans l'œil, où tu veux. Oui, effectivement, tu peux pointer comme ça.
Ouais, même avec une carte circulaire. Oui, déjà, c'est visuellement, c'est.
Ouais. Bon, les gros objets, on s'en sort avec la carte circulaire. Puisque ce qui est cool, c'est les astérismes entre les étoiles qui forment les constellations, qui sont assez visibles sur les cartes circulaires. Du coup, on a bien chaque zone qui correspond à chaque constellation. Et ouais, même bas dans l'horizon, on s'aperçoit qu'il y a d'autres constellations de l'hémisphère sud là qu'on voit à peine, qu'on voit pas longtemps, mais
ou qu'on voit le bout du nez. Ouais.
Mais du coup, je suis pas très voyageur, mais effectivement, on m'a montré une carte du pôle sud, et c'est vrai que ça a l'air d'être aussi autre chose le ciel. Et bon argument pour aller se faire un petit voyage, parce que c'est vrai que ça donne très très envie, quoi, pour le coup.
Ouais, et puis c'est un beau ciel le ciel du sud. C'est clair.
Bah, je sais pas en termes de qualité, enfin, parce que moi, ça m'avait, il y avait l'air d'avoir beaucoup plus d'objets, plus visibles, non?
Moi, j'ai en tête, pour avoir vu un petit peu du ciel d'hiver austral, à ce moment-là, il y a plus d'objets. Le ciel est plus garni en étoiles brillantes, mais bon, ça dépend. En été, ciel d'été, dans l'hémisphère nord, on est bien garni aussi. Donc, bon, c'est l'autre partie du ciel, mais il n'y a pas de.
La Voie lactée est plus présente, non? C'est quand même plus.
Ouais. En ciel d'hiver, ouais.
Ouais.
Ouais, ouais.
Il faut aller retourner écouter le podcast, il nous avait tout raconté quand il était revenu.
Et puis les noms, tout ça, ouais, c'est intéressant.
Après, il y a un truc quand même que j'ai découvert aussi, c'est que j'aime beaucoup les jumelles ou les appareils qui permettent de justement avoir un plus grand champ. Je trouve les photos, c'est magnifique sur les objets qui sont proches, les planètes et tout. Mais c'est vrai qu'à l'œil, je trouve pas cette qualité-là. Par contre, avec l'œil, avec les grands champs, vraiment, là, des observations, c'était quoi? C'est les Pléiades avec des grosses jumelles là, Je pense que c'est la plus belle vue que j'ai eue de l'été.
Des jumelles 100 mm.
Et vous parliez tout à l'heure de petites lunettes, les yeux de hibou, là. En off, je ne sais pas si on en a parlé à l'émission, je ne crois pas.
Non. C'est...
Ça, moi, ça me... je pense que ça peut être juste un régal d'avoir la Voie lactée en plus belle, enfin, ouais, plus de lumière.
Ouais, ce sont des petites lunettes, là, les yeux de chouette ou yeux de hibou, qui en fait se posent sur le nez comme des binocles. Là. Donc c'est très léger, c'est tout petit, mais ça grossit un tout petit peu, mais en fait c'est juste ça capte de la lumière. Donc c'est un peu comme avoir des yeux bioniques là, qui permettent de voir plus de lumière.
C'est ça.
Alors on n'avait jamais testé, mais on est très intrigués, on se dit que ça peut être chouette et on en parlait.
Oui, ouais, d'ailleurs, s'il y a quelqu'un là, dans le coin qui écoute l'émission, qui en a essayé.
Et peut-être qu'on pourra vous faire essayer à Maniac l'année prochaine.
D'ailleurs, on en profite si vous voulez vous aussi nous contacter pour participer à l'émission là, et venir comme Luc ce soir discuter avec nous. On vous redonne le mail de l'émission, c'est astro-rdwa@protonmail.com, comme un proton. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire ? Alors, une petite question encore pour notre ami Luc, puisque tu as parlé pas mal de philosophie, apparemment c'est un domaine que tu as un petit peu creusé, d'histoire de philosophie des sciences, etc. Et je me demandais du coup le fait de passer, en fait d'observer toujours avec ton œil, mais à travers un instrument d'optique, et du coup d'accéder à cette lumière qui vient un peu du fin fond du cosmos, qu'est-ce que ça a un peu créé chez toi comme ressenti ou comme...
Ben, j'observe depuis tout petit, je pense que c'est en partie l'observation des étoiles qui m'a rendu curieux de la nature, à l'œil nu hein, du coup, et du coup qui a fait aussi qu'après j'ai cherché à aller creuser un petit peu avec la philosophie, je me suis beaucoup intéressé à la pensée, aux pensées matérialistes contemporaines. Du coup, matérialiste, pas au sens de avare ou cupide, au sens d'une pensée qui cherche à conceptualiser le monde à partir d'une seule substance qui serait la matière. Donc l'idée, c'est que les étoiles, en fait, c'est des petites particules qui nous composent aussi, quoi, mais à des degrés d'organisation différents. Et ça, c'est quelque chose moi qui me fascine, quoi, parce que je me dis que finalement, nous, on est le résultat aussi de tout ça, quoi, de l'accrétion de plein de particules qu'on peut observer là, un état beaucoup plus primordial quelque part, je sais pas, ou en tout cas pas au même degré de complexité, quoi. On est composé de molécules de particules, quoi, qui sortent de ces astres, quoi, quelque part.
Oui.
Ça, c'est vraiment quelque chose qui me fascine. Du coup, j'ai l'impression de voir un peu l'origine de, ouais, aussi de la vie quelque part, de la pensée, de tout ce qu'on peut avoir qui nous passe par la tête à un moment, ça a été dans ces étoiles, quoi. C'est ça qui est vraiment fascinant pour moi. C'est ça l'effet que ça me fait un peu.
Un univers fécond. Et ben,
dont on fait partie intégrante.
Ça. Il y en a peut-être d'autres qui observent. Axel, souvent, il aime bien pointer une étoile là, qui fait. C'est une jumelle un peu du soleil.
Ah oui, Achird. Qu'est-ce qu'elle veut dire ? J'ai perdu mes notes.
qu'on voit très faible dans le ciel. Et il aime bien dire peut-être qu'il y a des gens. Sur une planète autour, ou peut-être pas, mais en tout cas, ils verraient notre étoile comme on la voit, comme on voit à Chirne, nous, depuis la Terre, quoi. Et ça, c'est aussi quelque chose qui donne de la perspective sur notre place dans l'univers, quoi. C'est vrai qu'à Chirne, elle brille pas beaucoup, quoi.
Et elle est qu'à 20 années-lumière.
Ah ouais, elle est proche.
Ok, eh ben, merci Luc d'avoir inauguré cette nouvelle rubrique.
Yes. Bah avec plaisir, merci à vous, c'était super sympa.
Et si tu as envie de revenir, c'est avec grand plaisir. Et quant à nous, on va vous souhaiter une bonne semaine et de belles observations.
Ben ouais.
Salut,
merci bien.
Ciao.
À bientôt.